Tov. Alors d'abord, Baruch Haba à toutes et à nous-mêmes. Et une grande bracha dans ta maison, Steph.
Amen.
Bezrat Hashem, que tu puisses vivre que des belles choses, des beaux événements. Beaucoup de shalom dans ta maison. Le mariage de ta fille, Bezrat Hashem, dans une grande simcha, un grand shalom. Bezrat Hashem, que tu puisses accueillir ici plein de petits-enfants. Bezrat Hashem Itbarach. Et que tu aies toujours le mérite d'accueillir du monde dans ta maison pour la Torah. Bezrat Hashem, si Dieu veut, et que la Torah de Rabbeinu, Bezrat Hashem, elle soit omniprésente dans cette maison, et que tu sois, qu'on ait encore une adresse, Baruch Hashem, comme d'hab, à Tel Aviv pour Rabbeinu, si Dieu veut. Et je vous le souhaite à tous d'ailleurs. Ok, donc on est veille de l'Akba Omer. On a un minag d'aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai et de prier ce jour-là. Alors on va juste essayer en très rapide. Il y a plein d'histoires, mais je me suis dit, déjà, on va essayer de... Je veux revenir sur un point. Est-ce qu'un jour, on s'est posé la question, pourquoi Rabbi Shimon et son fils sont partis se cacher dans la grotte? Alors, en rapide, parce que c'est pas là où je veux me... Merci. C'est pas là où je veux accentuer la chose. Mais en rapide, c'est qu'il y a marqué dans la Gemara qu'il y avait Rabbi Shimon et deux autres Tanaïm de l'époque, ils parlaient des nations, d'une nation, d'une Ouma. Et chacun disait ce qu'il pensait. Rabbi Shimon, je vous le fais en très condensé, d'accord ? Rabbi Shimon, il a dit que lui, ce que la Ouma, donc c'est de la nation, il ne parlait pas de Rome, d'accord ? Mais c'était comme si qu'il parlait en message codé. Il disait que la Ouma, ce qu'elle faisait, ce n'était pas bien. Et donc, quelqu'un est passé par là et très naïvement a répété ce que Rabbi Shimon a dit. Et c'est arrivé justement aux Romains. Et les Romains, ils ont dit quoi? Rabbi Shimon, il parle comme ça sur nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, quand il a entendu qu'il y avait un décret donc sur lui, il a dit, je vais quoi? Je vais me cacher dans le Beth Amidrash, parce qu'on sait que celui qui se cache dans le Beth Amidrash, là où on étudie la Torah, je serai protégé. Au bout d'un moment, Rabbi Shimon Bar Yochai, il voit que non seulement ça ne va pas, mais ça va encore plus mal. Ça veut dire les Romains, ils sont en train de s'exciter, ils le cherchent, ils ne le trouvent pas, et bon. Et donc, il comprend, d'accord, il comprend qu'il faut qu'il prenne son fils Rabbi Elazar et qu'il aille se cacher dans une grotte. Ils arrivent donc dans cette fameuse grotte, et là-bas, il y a un S, c'est que ils doivent, par Ruach HaKodesh, par inspiration divine, certainement comprendre qu'ils vont devoir rester là-bas un petit bout de temps. Donc, ils s'enterrent les deux dans la terre, ils enlèvent leurs vêtements pour les laisser. Ils s'enterrent à l'intérieur, donc ils font des trous, ils s'enterrent à l'intérieur, jusqu'à hauteur, donc du coup, pour pouvoir étudier la Torah. Et là, on y a marqué que HaKadosh Baruch Hu a fait qu'il y a un caroubier qui a poussé et qu'il y a une source qui est apparue pour qu'en fin de compte, ils puissent vivre là-bas. D'accord. Pendant ces 12 années où ils vont être. Maintenant, quand Rabbi Shimon et son fils, vous imaginez quand ils vivent pendant 12 ans dans une caverne, là-bas dans une grotte, complètement séparés du monde, à étudier la Torah. Et quelle Torah ? D'accord ? Parce que c'était tout le Zohar qui était en train de sortir. Donc, vous pouvez imaginer qu'au bout de 12 ans, ils se sont complètement déconnectés. Imaginez-vous, nous, rien que déjà, on fait une petite cure de WhatsApp, de Facebook, de je sais pas quoi, Instagram et compagnie. Dites-vous, je fais une cure de 2 semaines, vous revenez, vous êtes complètement à l'ouest, vous comprenez pas n'importe quoi. Imaginez-vous, lui et Rabbi Shimon, une cure du monde, 12 ans. Il n'y avait plus que lui et son fils. En sortant de la grotte, ils sortent et là, le choc, qu'est-ce qu'ils voient? Des gens courir. Nous, on court, le travail, les machins, on court la vie de tous les jours. Et ils sont choqués. Ils disent, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on puisse être des juifs, étudier la Torah, parce que voilà, chacun il a ses petites activités, chacun il prend son temps d'étudier la Torah. Mais comment c'est possible que, si tu as goûté à la Torah, comment Bichlal tu peux rester dans ce monde-ci? Alors, qu'est-ce qui a marqué? Que Rabbi Shimon et son fils, donc qu'est-ce qui s'est passé? Chaque chose qu'ils voyaient, tout brûlait. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, imaginez-vous, il faisait des feux là où ils allaient, là où ils posaient les yeux, il y avait des feux qui sortaient. Donc il y a une voix céleste qui est sortie et qui dit, attends, c'est pour ça que tu es revenu, pour brûler mon monde. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé à ça. Il lui a dit, non, retourne. Donc ils sont, après 12 ans, et on va dire, ils sont restés enfermés. Quelques jours, ils sont restés dehors. Tout de suite, ils sont retournés dans la grotte. En retournant dans la grotte, ils sont restés comme ça pendant 12 mois. Et au bout de 12 mois, Rabbi Shimon, il a dit, bon, les Rechaim, ils sortent du Gehinnom pendant 12 mois, au bout de 12 mois. Vous savez que les premières, quand quelqu'un meurt, pourquoi on fait le Kaddish et tout ça? Parce que la première année, on sait que personne, il est tzadique complètement. Donc, il y a 12 mois de Gehinnom, d'accord? Et c'est pour ça que c'est important de prendre des mitzvot là, sur nous pour le défunt, pour l'élever. Bref, donc Rabbi Shimon, il dit, bon, au bout de 12 mois, les Rechaim, ils sortent. Bon, ben, nous aussi, on va sortir de la grotte. Et en sortant de la grotte, Bémet, c'est comme si que pendant le travail que Rabbi Shimon, il a fait pendant un an, pendant 12 mois, d'accord? Eh ben, c'était 10 fois plus grand que ce qui s'est passé pendant 12 ans où il n'a pas arrêté d'étudier la Torah, parce que quand il est sorti que avec de la rachamim. Ça veut dire ses yeux, c'était devenu de la miséricorde. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, Rabbi Shimon, il voyait tout ce qu'il voyait, mais en fait, il mettait de la miséricorde. Mais il y avait son fils, Rabbi Eleazar, qui était beaucoup plus jeune. On sait que les jeunes, ils sont toujours plus fougueux. D'accord, Rabbi Eleazar, lui, il avait un feu en lui qui ne s'éteignait pas parce qu'il était offusqué de voir ce qui se passait. Et donc, Rabbi Eleazar, lui, par contre, il brûlait. Donc, qu'est-ce qui se passait? Il y avait comme un travail, comme une chose qui se faisait. Le fils, il brûlait. Le père, il éteignait le feu. Rabbi Shimon, il était devenu pompier. Et donc, et c'est comme ça que ça a été. Et un jour, il y a marqué comme ça. Tout ce que je vous raconte là, c'est marqué dans la Gemara. Et un jour, il y a marqué comme ça qu'ils ont vu, le sabbat. Ils ont vu un sabbat. Et là-bas, ils ont vu le sabbat qui courait avec des branches d'adassim. Mais ils lui ont dit, où tu vas? Et il a dit, ben moi, je cours pour... Je fais la balance, en fait. Et là, il y a marqué que quand Rabbi Eleazar, il a entendu ça, qu'il y avait le sabbat qui courait et qui faisait la balance et qui faisait un petit peu, on va dire, qui contrebalançait, on va dire, d'accord, qui tempérait, le feu de Rabbi Eleazar, à ce moment-là, il s'est éteint. Le feu intérieur s'est éteint et donc, c'était fini. Tout était beaucoup plus tranquille et Rabbi Shimon était heureux et rassuré. Alors, la Gemara, il y a marqué comme ça que... il y a marqué que quand on dit le sabbat, il y a marqué que c'est Eliyahu Hanavi. Mais Rabbi Nathan, lui, il dit, ben non, ça ne peut pas être Eliyahu Hanavi, parce que des fois dans la Gemara, il y a marqué à sabbat, le sabbat, c'est le grand-père. Hein, d'accord? Le sabbat, c'est le grand-père, c'est l'ancien, en fait. D'accord? Et Rabbi Nathan, il dit non, parce que dans la Gemara, souvent, il y a marqué à sabbat, et il y a marqué aussi Eliyahu Hanavi. Ils sont l'un à côté de l'autre. Donc il a dit, ça ne peut pas être Eliyahu Hanavi. Et il y a marqué que Rabbeinu, il a dit, dans, si je ne me trompe pas, c'est dans Chaye Moharan, mais je chercherai, mais je sais que c'est là-bas, je suis certaine. Rabbeinu, il a dit, Ani Asaba. Je suis le sabbat. Bon. Donc, ça, c'était pour la petite histoire. D'accord? Ça veut dire que en gros, qu'est-ce qui a tranquillisé, d'accord, Rabbi Shimon et qui a fait éteindre le feu de Rabbi Eleazar, qui ne pouvait pas supporter ce monde? En fait, imaginez-vous, Rabbi Shimon et Rabbi Eleazar là avec nous. Ils nous voient. De quoi on a l'air? De rigolo. On est des charlottes, c'est pas possible. L'une, elle est habillée comme ça, l'autre, elle vit n'importe comment, l'autre, je sais pas, elle parle la shonara, l'autre, pendant plein Homer, que normalement, on doit pas écouter de la musique, c'est là où elle va s'éclater, l'autre, il fume des joints, l'autre, il vole, l'autre... Bon, on a l'air de quoi? Vraiment des n'importe quoi. Mais, il était tranquillisé. Ils se sont tranquillisés parce qu'ils ont compris qu'il y avait un sabbat, d'accord, qui courait, et qui, lui, en réalité, est tempéré tout ça. Et c'est ça qui a fait que Béhémet, d'accord? Et c'est là où Rabbeinu, il a dit, « Ani Asaba, je suis en réalité ce tzaddik-là qui est marqué partout en réalité, c'est codé, que c'est lui qui est en train de tempérer et c'est lui qui en réalité, qui jusqu'à la venue du Mashiach, d'accord, il va faire que le monde va se maintenir et que le monde va arriver à sa réparation. Jusqu'à là, l'histoire de la Gemara. Maintenant, je vais juste vous lire, d'accord, et je pense que c'est, on n'a même pas besoin de commenter ou à peine, ok, ce qui a marqué dans le Sidour de Rabbeinu, pour celles qui sont intéressées, j'espère que vous l'avez toutes, et si vous ne l'avez pas, c'est vraiment important de la voir. Donc, Rabbeinu, le Sidour, page 445. Écoutez, maintenant, c'est en rapport avec ce qu'on a dit. Alors, comme ça. Donc, ce que je vais vous lire, d'accord, c'est marqué comme ça. Il y a eu une rencontre secrète qui fut transmise oralement pendant plus d'un siècle. C'est Rabbi Avraham Sternatz qui décida de la mettre par écrit. Donc, Rabbi Avraham, c'était le petit-fils de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, d'accord ? Donc, c'est une histoire qui a été transmise oralement. Pour ceux qui me disent « Ah, oralement, on va savoir », très bien. Donc, dans ces cas-là, prenez la Torah écrite, d'accord, et mettez-la à la poubelle. Ça ne marche pas. Donc, ce qui est écrit là, c'est du sûr. Alors, il y a marqué comme ça qu'en 1798, quand Rabbi Nachman voyagea en Israël, il se rendit à Méron, sur la sépulture de Rabbi Shimon bar Yochai. Il conseilla aux jeunes gens qui l'accompagnaient de prier et d'étudier le Zohar, ce qu'ils firent tous avec une grande ferveur. Il dit que la simple lecture du Zohar crée le désir d'étudier les autres ouvrages sacrés, car le langage du Zohar incite beaucoup l'homme à la dévotion. Rabbi Nathan, alors attendez, je veux arriver là où... Voilà. Rabbi Nachman se mit à méditer dans le mausolée avec un état d'esprit très particulier. Mais dès qu'il essaya de prier, quelque chose ne lui convenait pas. Il n'arrivait pas à se concentrer. Du ciel, on lui montra alors une petite ouverture près du caveau. Il s'y engouffra. Il vit des escaliers qu'il emprunta et il se retrouva en haut d'une grotte. Il avait entendu dire que beaucoup étaient rentrés dans cette grotte, mais que personne n'en était ressorti. Il continua à descendre, et lorsque notre saint maître se retrouva dans le corps, devant le corps pur et saint du redoutable Rabbi Shimon bar Yochai, il y eut une multitude d'effluves parfumées qui s'épandirent à l'instar du moment précis où Hachem entre dans le Gan Eden, quand survient Chatzot, afin de faire ses délices des âmes des tzadikim. Donc là, je vous mets le truc. Rabbeinu, il avance. On sait que à l'époque, personne ne pouvait rentrer dans la grotte de Rabbi Shimon, tellement c'est pur. Tellement c'était pur, personne ne pouvait rentrer. Celui qui était rentré, on disait qu'il ne ressortait plus de là-bas. D'accord ? C'était un endroit très pur. Rabbeinu, lui, il a continué. Il est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est rentré dans la grotte ? Il y a eu des parfums, des odeurs, d'accord ? Qui sont sortis comme ça, de cette grotte. Et c'est quoi ces odeurs ? C'est les mêmes odeurs qu'il y a quand Akadosh Baruch Hu lui-même, d'accord, rentre dans le Gan Eden au moment de Chatzot.
C'est profond, hein ?
Ouais. Attends, c'est plus profond que tu ne penses parce qu'on a...
Et Hachem, il rentre au Gan Eden à Chatzot ou il descend ?
Ah, il y a fait méode. On voit les copines. Alors... Comme c'est une sikhat raverim, d'accord, c'est sûr qu'on n'aura pas toutes les réponses. Parce que je ne vous cache pas que ça, ce que je vous lis, c'est une chavruta qu'on a fait avec Elo. Donc, on s'est posé beaucoup de questions, nous aussi. Dont celle-ci où on s'est dit, mais attends, je ne comprends pas. Il y a marqué que Akadosh... C'est quoi Chatzot pour les copines qui viennent d'arriver ? Chatzot, c'est le moment dans la nuit... D'accord ? Où Akadosh Baruch Hu, il est seul. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il vient à la rencontre de la Shrina, qui, elle, est restée en bas. Au moment où il y a la destruction du Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il est reparti. Et qui c'est qui est resté ? C'est la Shrina. La Shrina, elle a dit quoi ? Je vais laisser mes enfants comme nous, les mamans. Est-ce qu'on laisse nos enfants comme ça, on les abandonne, même s'ils sont comme ils sont ? Et la Shrina, elle a dit non, j'abandonne pas mes enfants, je reste dans la poubelle avec eux, c'est-à-dire dans ce monde ici, et je bouge pas. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il se languit de la Shrina. D'accord ? C'est une partie qui lui est importante, une partie de lui-même. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pendant Chatzot, Akadosh Baruch Hu, il va à la rencontre de la Shrina. D'accord ? Bon, je me pose la question du coup, est-ce que la Shrina, en réalité, elle n'est pas dans le Gan Eden à chaque instant ? Bon, à voir. Bon, il faut voir.
En fait, peut-être que la Shrina, elle vient réveiller l'amour, puisqu'elle lui montre, viens, on frappe aux portes, tu vas voir qu'il y a des gens qui sont réveillés.
Nachon. Donc, la Shrina, d'accord, à Kadosh Baruch Hu, il vient retrouver la Shrina. Et qu'est-ce qui a marqué ? Qu'à ce moment-là, c'est la nuit. Et à Kadosh Baruch Hu, on le sait, d'accord, il a besoin du Ham Israël, il a besoin de ses enfants. Donc, c'est la nuit, c'est le moment où tout le monde dort. Donc, Hachem, il vient, il tape aux portes de chacun et dit, il y a quelqu'un ici pour moi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien me recevoir ? Il y a quelqu'un qui veut bien m'ouvrir la porte et discuter un petit peu avec moi ? Parler un petit peu du manque que j'ai ? Parler un petit peu de mon exil, l'exil que j'ai pas la Shrina avec moi ? Donc, il y a un moment comme ça, on marque Khatsot, c'est un moment vraiment très propice à la Tfila. Et c'est tellement fort, Khatsot, c'est comme le Gan Eden, en fin de compte. C'est pendant 2 heures de temps. Le moment de Khatsot, c'est dure 2 heures de temps. Il n'y a que de la miséricorde dans le monde. C'est pour ça que Bémet, la Tfila de Khatsot, c'est pas pour rien que le Yetzer Hara, il s'est bien, il a bien travaillé, d'accord, pendant tout cet exil pour nous faire oublier cette Tfila. Dans le sens où si maintenant vous parlez avec les gens, qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Ben oui, on est obligé de faire, les hommes, 3 prières par jour. Shacharit, Mincha, Arvit. Mais tu as oublié la plus importante. La tfila la plus importante, c'est Khatsot. Rabbeinu, il a dit, on ne peut pas être un bon juif sans faire Khatsot. Tu ne peux pas. Le Yetzer Hara, il nous l'a fait oublier, à tel point qu'il y a même des sidourim où il n'y a pas marqué Khatsot. Oui.
Alors, tu as dit juste avant que la Shrina est restée dans ce monde comme prisonnière, en fait. Enfin,
c'est Hachem qui va à la rencontre de la Shrina.
Au moment de Khatsot,
la Shrina, elle est là. La Shrina, elle est tout le temps là. Tu comprends ?
Et la Shrina et Hachem, ils sont comme un couple.
Ben oui, c'est comme le Ham Israël et Hachem, on est un couple, bien sûr. Hachem, il ne peut pas se séparer. Et pourtant, la Shrina, elle n'a pas été... qui vient à la rencontre de la Shrina, justement. Et donc, il y a marqué comme ça qu'à ce moment-là, il y a des odeurs spéciales. C'est quoi ces odeurs ? C'est les odeurs que quand Hachem, en réalité, d'accord, il rentre au Gan Eden. Parce qu'en réalité, Khatsot, c'est Prina de Gan Eden. Comment on dit Prina ?
Une notion.
Khatsot, c'est une notion du Gan Eden. Il n'y a que de la miséricorde. Il n'y a pas du tout la notion de la justice. Le Gan Eden, c'est que de la miséricorde. Parce qu'il n'y a que les yeux d'Hachem. Au Gan Eden, il n'y a que les yeux d'Hachem. Alors, il y a marqué comme ça que, donc, c'est à ce moment-là, quand Rabbeinu, il est rentré dans la grotte, je ne sais pas si tu t'imagines, les mêmes odeurs qu'il y a d'habitude quand Hachem, il rentre dans le Gan Eden, c'est les odeurs qu'il y a eu, qui émanaient maintenant de Rabbeinu quand il est rentré dans la grotte. C'est énorme. Alors, il dit comme ça, tous les mondes scintillèrent d'un vif éclat. Et les tzadikim, plongés dans un état de long sommeil à l'intérieur de la grotte, se réveillèrent. Tout à coup, une voix céleste lança un appel vibrant. Quel est le nom, c'est une voix céleste, hein. Quel est le nom du saint tzadik, fondement de tous les mondes ? Car c'est à lui que revient le mérite d'allumer les saintes lumières et d'illuminer tous les domaines du roi supérieur et sacré. « Bienvenue à celui qui vient de pénétrer dans cette sainte grotte. Quel mérite doit avoir ce tzaddik pour recevoir ce titre sublime de fondement de tous les mondes ? Il devra faire fi de sa propre estime en acceptant de chuter dans la boue afin d'honorer Hachem et sa Shrina. » Tous ces actes doivent avoir uniquement pour motivation de la relever de la poussière. Vous vous rendez compte de quoi on parle ? Quel mérite doit avoir ce tzaddik ? Il ne lui faudra posséder le remède. Il lui faudra posséder le remède afin de guérir la princesse qui est la Shrina. Il agira à ses côtés et il lui adressera des paroles imprégnées de consolation. Parce que la Shrina, elle pleure. La Shrina, elle pleure tous les jours. Akadosh Baruch Hu, il pleure tous les jours. De quoi il pleure ? Qu'ils sont en galoute. Hachem, nous on parle de la galoute dans laquelle nous on vit. Mais tu t'imagines, lui, Hachem, la galoute qu'il vit, loin de ses enfants, c'est inhumain, c'est impossible.
Mais pourtant, il pourrait nous délivrer.
Ah, attends deux secondes. Il aura le pouvoir, il aura le... La princesse, c'est la Misraël, la Kadosh Baruch Hu, il pleure son enfant.
Non, mais là, il y a écrit la princesse, c'est la
Shrina. Et la Shrina, c'est qui? C'est le Ham Israël. Nous, en réalité, on est une partie d'Hachem. On est toutes des parties d'Akadosh Baruch Hu, mais on est dans la boue, on est resté, on est par terre. Tu comprends? Il aura le pouvoir de remédier à tous ses maux et aux graves blessures qui la font souffrir en se servant d'un élixir de vie. Ça, c'est, on parle maintenant de ce tzaddik. On ne sait pas encore qui c'est. Qui est ce tzaddik? Quel mérite doit avoir ce tzaddik? Il ne devra nullement faire cas de son caractère raffiné, mais sera prêt à salir ses mains avec du sang dans le but d'autoriser la reprise des relations conjugales. Réga, réga. Parce que depuis qu'il y a eu la faute de Adam et Chava, depuis donc la création du monde, moins 6 heures, le Ham Israël, il est considéré comme Nida. Comme une femme quand elle est Nida et qu'elle n'a pas le droit de s'approcher d'un homme. Vous connaissez ça? Une jeune fille, une jeune femme, d'accord? Avant le mariage, elle est considérée comme Nida. Et quand Chas v'Shalom, une femme et un homme se touchent avant le mariage, c'est très très grave. En réalité, ils ne font que souiller encore plus le monde. Et Bichlal, quand une femme, elle est autorisée à son mari, elle est passée maintenant sous la choupa, d'accord? Alors il y a cet instant où ils ont le droit de se retrouver après le mikvé, mais avant le mikvé, elle est dans un état de nida. C'est assour d'être ensemble. Donc là, ici, il dit comme ça, il dit... Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, le monde, depuis qu'il y a eu la faute de Adam et Chava, le monde, il est plongé dans un état de nida. Ça veut dire que les enfants d'Israël, d'accord, et Hachem, c'est comme s'il y a une séparation. Ce saint tzaddik-là, il est venu, même qu'il est raffiné, même qu'il est spécial, tout ce que tu veux, lui, c'est qui ce tzaddik? Il a cette capacité de faire sortir le Ham Israël de cette situation de nida, pour autoriser, d'accord, cette relation conjugale. Parce que vous devez comprendre que quand il y a une relation conjugale dans la Kdusha et la Tahara, donc après le mikvé entre un mari et une femme, d'accord, nous on croit, vas-y, c'est l'éclatade, je prends du plaisir, elle prend du plaisir et compagnie, d'accord. Mais en vrai, il y a, d'accord, une union en haut et en bas. On ne peut pas imaginer, chaque fois qu'il y a une relation intime après un mikvé et pendant la période, d'accord, permise, on ne peut pas imaginer les réparations qu'on fait et dans ce monde et dans les mondes supérieurs. Donc il vient, il te dit, quel mérite doit avoir ce tzaddik? Il creusera sans relâche afin de faire parvenir à faire jaillir l'eau du puits en la débarrassant de toutes ses impuretés. Quel mérite doit avoir ce tzaddik? Il parfumera la shrina afin de l'attirer de son sommeil en la recouvrant des 24 ornements et il la remettra à son époux dont l'amour pour elle s'en trouvera éveillé. Alors la parole de notre maître jaillit, donc Rabbeinu, quand il a entendu tout ça, elle jaillit en éclatant de 1000 saveurs parfumées et elle se fit entendre de tous les êtres d'en haut et d'en bas. Il déclara, « Je m'appelle Nachman, le fils de Simcha et de Feige, et c'est moi qui suis entré dans cette grotte sacrée. Je suis issu de la sainte descendance du Baal Shem Tov, dont l'ascendance remonte au roi David, que la paix soit sur lui. Je possède toutes ces aptitudes citées plus haut. » D'accord ? Et je suis un tel tzaddik, car je m'investis à l'unification des cieux et de la terre. Je suis un tel tzaddik parce que je console le Saint béni soit-il et la Shrina, appelée Knesset Israël, la colombe parfaite. Vous imaginez quelle force il faut avoir pour être capable de venir dire « je suis ». C'est-à-dire, Hachem lui-même a dit tout ça et il dit « c'est moi ». Nachman. C'est pas rigolo, hein, quand même. C'est...
Non, mais par contre, tu vois, on peut penser...
De l'orgueil.
Voilà.
Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, lui-même, il a dit, et ça, ça a été accepté par tout le monde, le monde tient pas sur moi et sur mon fils. À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord, il avait dit à son fils, mon fils, quand ils sont sortis au bout des 12 mois, ah, ça aussi, c'était marqué dans la Gemara, je me rappelle. C'était, lui, il, qu'est-ce qu'il avait dit à son fils au bout des 12 mois? Il lui a dit, bon chéri, arrête, calme-toi. C'est pour ça qu'il faisait là à chaque fois le pompier. Laisse, le monde se suffira de nous. Grâce à nous, le monde, il va pouvoir tenir. D'accord? Donc, c'est pas de l'orgueil, ça? Attends, qui t'es, toi et ton fils?
Non, mais, Bénex, c'est pour ça. Alors après, où se situe cette limite fine de en avoir ou de pas en avoir?
Je pense qu'il faut...
C'est une limite extrême. Puisque regarde, juste avant, il a dit qui est ce tzadik qui a un caractère extrêmement raffiné, mais qui ne l'utilise pas. Il s'annule.
Et qui est capable d'aller dans la boue, d'accord, et salir ses mains. Pourquoi? Pour sauver en réalité le Ham Israël.
Oui,
attends,
vrai.
C'est pas une humilité? Va toi, va toi dans les égouts de Paris et dis vas-y, je vais nettoyer.
En fait, j'ai entendu que c'est quand même une carte de visite d'un grand professeur. Un grand professeur, il a une spécialité. Il sait, je sais pas moi, faire une opération que personne ne sait faire.
Voilà, exactement.
Il écrit sur la porte de son cabinet, spécialiste en
ça, c'est
tout. Ben voilà, exactement. C'est exactement.
Et là, il
pourrait
arriver et dire, je suis le sabbat, je suis le...
Ah oui, Bidouk, qu'est-ce qu'il a... Ouais, écoute, Bidouk, attends, n'oubliez pas une chose. On a dit que dans la Gemara, c'était marqué quoi? Qu'en réalité, qu'il y avait marqué le sabbat, d'accord? Le sabbat, c'est quoi? C'est ce qui a été avant même la création du monde. Bon, on ne va pas tout vous expliquer d'un
c'est
coup, parce que...
Voilà. En fait.
C'est tout, le sabbat, c'est avant tout. Reprenez les comptes, vous allez voir. Quand il dit, moi j'étais avant et moi j'ai des sept mendiants.
Le père des Avot.
Bah oui, on ne dit pas Abba parce qu'il y a déjà des Avot.
Bien sûr.
C'est sabbat. C'est avant les Avot.
Le sabbat, il existe avant tout. D'accord? Donc, c'est le sabbat. Qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qui a marqué les copines? Le sabbat des Sabim. C'est le grand-père des grands-pères. C'est-à-dire, il est là avant tout. Je vous envoie toutes à lire les sept mendiants. Ben oui, c'est le sabbat. Écoute, je vous engage toutes à lire le conte des sept... Oui, c'est le sabbat, c'est ça, c'est toujours ça, la même histoire. Attends, écoute, lisez les sept mendiants. Oui, c'est pour ça que je ne veux pas, parce que... on va se perdre. Lisez les sept mendiants. Regardez chaque mendiant à la fin, qu'est-ce qu'il dit, et vous allez comprendre que c'est tous la même histoire, parce que le sabbat, il inclut tout. Tout est inclus dans le sabbat.
Donc avant
tout. C'est comme si je te dis, bon, regarde. Regarde ce qu'il te dit. Pour revenir à ce que nous a dit Myriam. Je suis le médecin de la princesse, la fille du roi suprême et sacré. Voilà, c'est une carte de visite. Je suis le médecin de la princesse. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas des rois, des médecins là-bas, les familles marocaines disaient, je suis le médecin du roi du Maroc. J'étais le médecin du roi du Maroc. On connaît cette phrase.
Ouais.
Bon, ben voilà. Il est le médecin de la princesse, lui aussi, si tu veux. Pareil. Je suis un tel tzadik parce que mes mains possèdent le pouvoir de lui retirer les flèches empoisonnées qui l'ont atteinte.
Et ça, c'est l'ordre
attends.
De la faute originale.
C'est malédiction.
C'est
attends.
Pas la faute originale, ça, parce que
attends. Oui, bien sûr. Attends, mais regarde ce qu'il y a marqué ici. Stam comme ça. Je suis un tel tzadik parce que mes mains possèdent le pouvoir de lui retirer les flèches. Regarde, de lui retirer, lui, c'est avec un L majuscule. On ne va pas dire lui en parlant du Ham Israël avec un L majuscule.
Maintenant, il y a eu combien de malédictions quand il y a eu la faute avec Rava?
Il y a eu Nida, qu'elle va, les douleurs de l'enfantement.
Il n'y en a pas eu 10?
Ouais, et ben c'est les 10 plaies, les 10 flèches et les 10 tikkunaklali. Et le tikkunaklali. Et c'est les 10 tikkunaklali du Shabbat qui font la réparation totale.
Chez
Rabbeinu. Bon, je m'excuse hein, pour les nouvelles parce que je sais que Bémet, c'est pas juste. Hein, on est en train de dire n'importe quoi. Mais bon, comme je t'ai dit, Alison, hein, c'est pour toi. Je sais pas pourquoi, mais.
Nathalie, toi aussi, hein, c'est nouveau.
Mais ouais, c'est nouveau, mais voilà. Regarde, d'habitude, c'est pas comme ça. Ouais.
Quoi qu'il arrive, vous allez sortir un
Écoute, donc du coup, on reprend. Je suis un tsel tzadik parce que mes mains possèdent le pouvoir de lui retirer les flèches empoisonnées qui l'ont atteinte, tirées par le serpent originel. En réalité, le serpent, quand il y a eu la faute de Adam Vechava, d'accord ? Ok, l'être humain, il a été touché. Mais Akadosh Baruch Hu aussi, il a été touché. Qu'est-ce que tu crois ? Que lui, il est resté pépère ? Non, lui aussi, il est...
Non, mais dès qu'on est touché, il est touché.
Ben, bien évidemment, puisque nous, en réalité, d'accord, on est tous une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et qui c'est qui n'a pas été touché ? Le sabbat des Sabim. Parce que lui, justement, il est sorti tout de suite. T'as compris ? Alors maintenant, il dit comme ça. En outre, regarde comment il continue, Rabbeinu, de parler. En outre, j'ai la capacité de lancer ses flèches à l'intérieur de sa bouche, de la bouche du serpent, où ils y demeureront jusqu'au moment où tout ce qu'il a englouti sera rejeté en dehors de son ventre. Parce que le serpent, en réalité, quand il y a eu la faute de Adam Vechava, juste pour vous remettre dans le contexte, on est toujours au moment de la faute de Adam Vechava, on n'a toujours pas bougé. D'accord ? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on essaye de réparer cette faute. D'accord ? Mais quand le serpent, il te dit comme ça, il te dit... il a englouti. Qu'est-ce qu'il a englouti en réalité, le serpent ? Il a englouti tout ce que nous, on avait en nous, toute notre shrina, toute notre grandeur. Donc il nous a pris en réalité des choses. Donc maintenant, en réalité, on a perdu des choses. C'est les avedot. C'est pour ça que Rabbeinu, il te dit, tu veux retrouver tes avedot, tes pertes spirituelles et matérielles depuis la Briat HaOlam, depuis qu'il y a eu le commencement du monde, viens chez moi. Parce que toutes tes pertes, elles sont chez moi. C'est pas la peine d'aller chercher à droite et à gauche, tu vas perdre du temps. Toutes tes pertes sont chez moi, spirituelles et matérielles. Qu'est-ce que tu veux ?
Nos avedotes.
T'as compris ? Il a englouti tout ce qu'on avait en nous. Donc on a perdu des choses. Après, il vient, il te dit, je suis un tel tzaddik parce que ma mission consiste à renforcer les âmes affaiblies. Écoute maintenant, c'est quoi le job de Rabbeinu ? Écoute le nom, écoute. Écoute maintenant, c'est quoi le job de Rabbeinu, d'accord ? Rabbeinu, il est venu dans ce monde, il te dit, regarde, moi, ma mission, il dit à Hachem, il dit, mais moi, c'est quoi mon job ? C'est renforcer les âmes affaiblies, nous. Sévèrement touchés par les attaques du serpent originel, c'est nous. Nous, on souffre tous en réalité. Aujourd'hui, plus que jamais, d'accord, de ce monde et de toutes les attaques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend tellement d'histoires, tellement d'impuretés, tellement de saletés, tellement de tralouèdes et de... On est affaibli, même si on s'en rend même pas compte, mais on est affaibli. Alors il te dit, moi, c'est mon travail, je suis venu que pour ça dans ce monde. Pour sortir le Ham Israël, d'accord, de la poubelle dans laquelle on est rentré. Depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête, rien ne demeure intact en eux. Bon, là, ça veut dire, Rabbeinu, il vient, il nous dit, bon, les enfants, regardez, n'ayez pas peur. Je sais, vous êtes dans une impureté totale, vous vivez des histoires terribles. Je sais, on est en train de vous prendre, de vous plonger dans de l'huile bouillante. Après, on vous passe dans l'eau glacée. Après, dans ça, c'est l'horreur. Vous passez des horreurs, des bains, de tout ce que vous voulez, d'impureté extrême. Et Rabbeinu, il te dit, mais t'inquiète pas, je sais tout ce que tu passes. Moi, je suis venu ici dans ce monde que pour te nettoyer, que pour te soigner. Et il nous dit même en plus, n'ayez crainte, je marche devant vous. Ça veut dire quoi ? Tout ce que toi, tu vas recevoir, toutes les difficultés que tu penses que tu vas vivre, dis-toi, c'est un quart peut-être de ce que tu aurais dû recevoir, puisque Rabbeinu, il marche devant toi. Donc lui, il accuse tous les coups en premier, lui. Tout, il reçoit. Regarde quel tzaddik c'est. Une âme si raffinée. Une âme qui n'a pas goûté, d'accord, qui n'a pas fauté. Une âme qui est sortie avant que Chava, d'accord, elle ait goûté du Etzada, de l'arbre de la connaissance. Cette âme-là, en réalité, ce qu'elle a, elle n'a aucune réparation à faire. Mais elle sait aussi une chose, c'est qu'il n'y a qu'elle qui est capable de réparer. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu ? Par amour pour l'âme Israël, il a dit, tu sais quoi ? Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je vais descendre dans ce monde avec toute la saleté et je n'ai pas de problème de descendre là où toi, tu descends. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu fais des avérot, je suis avec toi. Tout ce que tu vas faire, je suis avec toi. Je ne te lâcherai pas et je vais te sortir de là où tu es. C'est énorme. Qui est capable de faire ça ? Comme on disait, nous toutes, on a nos montées et nos descentes. On a toutes nos chutes. Nachon ? Quand on est en chute, comment on est ?
On est en dépression.
En dépresse. Chacun, selon son niveau, d'accord, de conscience et de connaissance, parce que chacune, quand elle est en chute, ben, ta chute à toi, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas à toi. Et plus tu as du da'at, écoute, plus tu as du da'at, ça veut dire plus tu as de la connaissance et plus ta descente, elle va être profonde. Et plus tu vas, c'est très dur de sortir. Et pourtant, Rabbeinu, lui, il vient, il te dit, t'inquiète, moi je vais descendre là où tu es et même plus bas que tu es. Moi j'ai été encore plus bas que là où tu as été pour pouvoir te remonter. C'est sur ça qu'il a dit, le désespoir n'existe pas. Ne désespère jamais. Tu peux monter et descendre, tu peux essayer. Toutes les minutes, c'est pas grave. Tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Parce que dis-toi une chose, c'est que c'est ça, en réalité, la vie. Jusqu'à que Mashiach va venir, ça va être comme ça. Alors lui, il te dit, ça c'est mon travail. Je sais une chose. Le Ham Israël, il est entaché. Imagine-toi, on est des âmes blanches, à la base. On est devenus noirs. Des pieds à la tête, il n'y a pas un endroit. C'est pour ça qu'il te dit, je suis le médecin. Quand on dit, il dit Rabbeinu, il dit, Ani Arofé, je suis le médecin. Ça veut dire, tu veux guérir ton âme et donc ton corps, puisque toutes les maladies de l'âme, du corps viennent de l'âme. D'accord ? Donc tu veux guérir, viens chez moi. C'est pas la peine d'aller voir, tu vas aller voir des médecins, mais
change.
D'abord, viens chez moi. Toute la guérison, elle est chez moi. Tes dépresses, tes angoisses, tes trucs, tout est de chez moi. Tout va venir, tout va se retrouver chez moi. Et moi, j'ai toutes tes pertes. Vous vous rappelez le serpent ? Moi, j'ai tout. Donc, viens chez moi.
Mais ça veut dire quoi, viens chez moi, Yael ?
Ça veut dire, tu viens chez moi et tu te déplaces.
Tu vas au man, tu te déplaces
et tu vas faire vidouille chez moi et tu vas pleurer chez moi et tu vas lui dire tout et moi je vais tout te réparer et tu vas t'attacher à moi.
Tu comprends?
C'est ça sa mission. Il y a des tzadikim, leur mission c'est que tu ailles chez eux, ils te font une bracha à 10 000 dollars. Lui, sa mission c'est tu viens chez moi, je te répare gratos, tu payes le billet d'avion. Bref.
Il y a une histoire.
C'est la vérité.
Il y a un ange qui demande à Kadosh Baruch Hu pour le Baal Shem Tov. Il lui dit, mais pourquoi ? Il dit, le Baal Shem Tov, il doit quitter ce monde. Il lui dit, mais pourquoi ? Il est trop jeune, c'est un grand rab et tout. Il lui dit, parce que je vais faire venir quelqu'un qui va soigner le monde et je peux... Et qui est
Rabbeinu.
Mais je ne peux pas avoir deux très grands sadikim en même temps sur le même monde. Chacun a une mission différente.
Pourquoi ? Parce qu'il y a une yann, qu'il y a un moment où il va y avoir... Il y a un moment, une date pour la Géoula.
C'est ça. Et donc, il a fait...
Tu peux pas, comme de l'époque de Rabbi Shimon et son fils, d'accord, qu'eux, ils voulaient hâter la Géoula. Dès qu'ils ont vu le sabbat, Rabbi Shimon, il a dit à son fils, voilà, tu sais qu'il va y avoir une délivrance. L'olitrok et tacha'a. C'est quoi l'olitrok et tacha'a ? N'avance pas. Ne fais pas avancer le moment avant que ce soit le moment. Sache attendre. Attendre en faisant le cheve et altaassé. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, aujourd'hui ?
Attendre,
attendre patiemment. Attends, aujourd'hui, quand tu vois le monde dans lequel on est, mais on a tous envie de sortir de nos galères. Qui c'est qui n'a pas envie de sortir de sa propre galère ? Tout le monde est dans la galère. Qui c'est qui ne va pas venir te dire j'ai une souffrance, j'ai une difficulté, j'ai un problème, mon mari, mes enfants, mes trucs, j'en sais rien. Chacun, il a son histoire. Je ne te parle même pas des histoires terribles. L'autre, il a trompé, l'autre, il a tué, l'autre, il a avorté, l'autre, il ne sait pas quoi. Des histoires, tu dis, mais j'en peux plus. Et on est tous dans ces histoires, parce que quand une, elle fait une bêtise, ou un, il fait une bêtise, on est tous inclus dans la bêtise.
Mais c'est ça qui envoie.
Parce qu'on est tous à Révim Zélazé. On est tous responsables des uns des autres. Il n'y en a pas un qui peut dire, ah ouais, la fille là-bas, elle a fait quelque chose, oh là là. De quoi tu parles ? Toi et elle, c'est pareil. Pleure plutôt. pleure, prie pour sa tchouva, prie pour la tchouva du Ham Israël. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus haut que prier pour la tchouva du Ham Israël. Rabbeinu, lui, il aurait pu dire les tzadikim, d'accord ? Il n'y a aucun tzadik, en fin de compte, qui a été capable de venir dire « Bah écoute, tu sais quoi, je vais me salir, c'est bon, à la fin des temps. » Il n'y a plus aucun tzadik qui voulait venir. Aucun tzadik n'a voulu venir pour réparer le monde. À la fin des temps, les Tanaïm, qu'est-ce qu'ils ont dit ? « Ah non, on ne veut pas voir la venue du Mashiach. On ne pourra pas supporter, non. Ça va être trop, c'est trop dégueu ce qui va se passer. On ne veut pas. On veut rester tranquille. » Alors, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Rabbeinu, il a dit « Bon, d'accord, allez, j'y vais. J'y vais. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas peur de descendre dans les bas-fonds et de l'Inde, et de Tel Aviv, et de tout ce que tu veux, dans les pires boîtes de nuit, dans les pires trucs, les pires drogues, les pires tromperies, les pires horreurs. J'ai pas peur d'y aller. J'ai un dos assez large.
C'est nous qui l'envoie.
Hein ? Ah ben, bien sûr que c'est nous. Puisque nous sommes une partie du tzaddik. Oui. Puisque tout est englobé dans le tzaddik. T'as compris ? Il a dit, moi, j'ai pas peur, j'y vais.
Mais nous, on s'est pas porté garant.
Avant même que tu descendes dans ce monde, avant que tu descendes dans ce monde, on t'a montré ta vie jusqu'à ton dernier souffle. Rabbeinu t'a dit Tedak, t'as dit ok, je signe. Parce qu'à l'époque, t'étais que Emet, t'étais que Neshama, et tu voyais toute la réparation. Ça veut dire, tu vois pas, ah là là, là je suis tombée, là j'ai une chambre dépresse et je suis comme ça, et là j'ai fait telle avéra. Et on parle des grandes avérotes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les avérotes qu'on fait, c'est plus de la gnognotte, d'accord ? C'est devenu super. Et nous, c'est high level, bien sûr. Et nous, on a vu tout ça, et on a dit, non. Alors maintenant, bien sûr, on se sent mal. Mais à l'époque, on était que Neshama. On voyait quoi ? Avéra, réparation, avéra, réparation, avéra. Tu tombes en bas. Quand tu descends en bas, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas rechercher des étincelles. Tu comprends une chose, qu'aujourd'hui, on est la génération avant Mashiach. Il y a des étincelles divines qui ont échoué tout en bas, que personne n'a réussi à les enlever, à gratter pour les faire monter. Personne. Ils ont essayé, ils ont tout fait, tout. Il n'y a pas, ça ne bouge pas. Il n'y a que nous, les petits juifs français, les petits, bon, voilà, qu'on est capable de descendre tout en bas là-bas, dans des endroits qui n'ont encore jamais été visités, que personne n'a voulu aller là-bas. On descend là-bas et on remonte avec les étincelles. Ça veut dire notre travail à nous, c'est quoi aujourd'hui ? Monte, descend, monte, descend. Maintenant, tu comprends une chose. C'est plus tu as du da'at, plus tu as de la connaissance, plus tu es attaché et plus tu es en fait diplômé, plus ta chute, elle va être vertigineuse. Ça veut dire c'est ouf. D'accord ? C'est les chutes du Niagara, c'est rien à côté. Mais sache une chose. C'est que quand tu vas te relever de ta chute, ça va être très haut aussi. Pourquoi ? Parce que tu es parti chercher de la poubelle qui est là-bas, dans la crasse, encrassée depuis le début du monde.
C'est proportionnel.
Tu comprends ?
À un moment donné, c'est la chute du cœur. C'est le cœur.
Tout, c'est le cœur de toutes les façons.
C'est-à-dire quand tu as compris ce que je dis.
Regarde ce qu'il dit, c'est pour toi. Donc il te dit, rien ne demeure intact en eux. Leur cœur est glacé et a perdu. Hey, regarde de qui on parle, on ne va pas se reconnaître sûrement. Leur cœur est glacé et a perdu toute sensibilité vis-à-vis de la tchouva. Franchement, ce n'est pas nous ça. Normalement, il y a la Torah du Likout et Moharan, la Kouf Nun Zayin, d'accord ? Où là-bas, il y a marqué...
Je te tiens le doigt.
Regarde ce qu'il y a marqué. C'est la bracha dans sa maison. La Kouf Nun Zayin. Attends.
153,
Zayin, 157. Kouf Nun Zayin. Regarde ce qu'il y a marqué dans la Torah. Elle fait trois lignes, donc ne vous inquiétez pas. Regarde ce qu'il dit ici, Rabbeinu. Les copines, regarde ce qu'il dit, Rabbeinu. Si l'homme s'attache réellement aux paroles de Torah qui sortent de la bouche du juste, je peux m'étonner alors. Comment est-il ensuite possible de supporter, de désirer la vie de ce monde ? Nahon, que des fois on en a marre et tout. Il te dit, un homme qui bémette s'attache réellement aux paroles de Torah, qui sortent de la bouche du tzaddik. Parce que le tzaddik, il va te donner un élixir de vie, de vraie vie. Pas la vie qu'on vit aujourd'hui, que c'est une vie de mort. D'accord ? C'est une fausse vie. La vraie vie. Il te dit, je m'étonne. Alors il te dit comme ça. C'est ainsi qu'il est écrit, toute personne qui tire un profit des paroles de la Torah retire sa vie de ce monde. Comprends bien cela. Quelqu'un qui... Ça, c'est la Torah de Rabbeinu. Donc, quelqu'un ici, il te dit comme ça. Si Bémet, d'accord, on était sensible. Si Bémet, on était... On avait un cœur et que notre cœur, il était encore chaud. D'accord. Et qu'on était sensible, justement, aux paroles de Torah, aux paroles du tzaddik. Mais on pourrait même pas tenir dans ce monde, comme Rabbi Shimon et son fils. Quand ils sont sortis de la grotte et que c'était plus des hommes, c'était des anges. Mais un ange, il ne peut pas supporter de vivre ici. C'est impossible. Nous, en réalité, d'accord, si Bémet, Bémet, on a la capacité de s'élever tellement haut que si Bémet, Bémet, on écoutait la parole du tzaddik, notre cœur, il brûlerait pour Hachem. On supporterait plus rien de ce monde. Donc ici, il te dit, qu'est-ce qui se passe ? Tellement on a été entaché, tellement on est encrassé, tellement on est les enfants de l'exil, d'accord ? Il te dit, notre cœur, il est glacé, il a perdu toute sensibilité à la tchouva. Attends. Qu'ils ne sont pas en mesure de réaliser, ça veut dire, même si tu veux faire tchouva, tu ne peux plus faire tchouva. Même si tu veux, tu ne peux plus. Sans passer par le tzaddik, sans t'attacher au tzaddik, tu ne peux pas faire tchouva.
Il y en a qui sont pas attachés au tzaddik.
Tant pis pour eux. Qui c'est qui... Bah, il te le dit que non. Attends, moi, je suis une pshuta, hein, Jen. Moi, je fais pas de chochmot. Voilà, moi, je te lis ce qu'il dit Rabbeinu. Tu sais quoi ? Je fais du mot à mot. Tu veux, va chez Rabbeinu. Dis-lui, attends, je comprends pas. Tu as dit ça, mais il y en a qui sont pas attachés à toi. Et pourtant, ils ont fait tchouva. Rabbeinu, il va te répondre. Mamie, c'est clair comme de l'eau de roche. Tant que tu n'es pas attaché au tzaddik, tu ne fais pas tchouva, tu n'as pas commencé.
Mais à propos de ça, tu nous avais pas fait un cours une fois dans l'écoute à la faute où il parle de ça, que Rabbi Nathan, il dit qu'à partir de maintenant, avant, c'était dans une paracha.
Avant le tzaddik, tu pouvais faire. Oui, c'est Naron, c'est dans un Likouté à la Rote. Avant que le tzaddik vienne dans ce monde, tu pouvais faire tchouva par toi-même.
Voilà.
Depuis que le tzaddik il est venu dans ce monde et qu'il a et qu'il s'est dévoilé, tu ne peux plus faire tchouva par toi-même.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la prira, elle se limite à être attachée au tzaddik ou pas finalement.
Bidouk.
Mais est-ce qu'il y a une garantie ? Parce que si la chute elle est proportionnelle aux dates, ça veut dire que la chute, elle peut être énorme et peut-être que là-bas, dans la chute, on va oublier le tzaddik. C'est là qu'on a la
garantie. Mais
la
garantie, elle est aussi. Mais non, mais
c'est la garantie qui va trop lever. Mais c'est ça qui dit. Tu dis limite, je ne veux pas du date. Si c'est pour chuter.
Quand il dit, je vais te remonter de l'enfer par les péotes qui
perdent. Écoute, écoute.
Je garant que dans ta chute, il va trop lever.
Rappelez-vous. Rappelez-vous. Attends.
Si tu n'es pas attaché, tu ne tomberas pas plus bas.
Écoute une chose. Écoute une chose. Tout est, rappelez-vous, le dernier cours qu'on avait fait, on avait parlé de la Torah où il disait à la fin, est-ce que ce monde existe ? Est-ce que c'est pas le Gehinnom en fin de compte ? D'accord ? Bon, bien sûr que c'est le Gehinnom si t'es pas attaché au tzaddik, mais comme elle te dit, le tzaddik, il te dit, t'inquiète pas, accroche-toi à moi, moi je te tirerai de l'enfer où tu es. Ça veut dire quoi ? Non, c'est sûr ! Mais t'inquiète pas, le tzaddik, il va pas t'oublier, lui. Une fois que tu t'es attaché au tzaddik, les copines, tu sais, comme quand il y a les bêtes qui sont tamponnées, vous connaissez ces trucs-là ? Bon, hein ? Ouais, il y a des bêtes comme ça, d'accord ? Dis-toi une chose, tu t'attaches au tzaddik, c'est fini, t'es tamponné. Va à droite, va à gauche, fais... Il n'y a pas le tzaddik qui ne t'abandonnera pas. Tu es à lui, tu lui appartiens. Tu comprends ce que je veux te dire ? Donc, tu n'as pas peur. Le tzaddik, il va te faire monter, il va te faire descendre. Et tu te dis, écoute, Aïkar, c'est quoi ? Je reste attaché à Rabbeinu. Je reste attaché à Hachem. Je reste Bessimcha. Je ne me laisse pas bouffer par la culpabilité. Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Rien ! J'accomplis. Mashaya met. Ça veut dire, il y a 30 secondes, ça n'existait pas. pas tu vis. Attends, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ma mère, mon père, ma grand-mère, les histoires, et vas-y, tu ramènes tous tes sabots et tes trucs et tes sacs. Attends, tu ne peux plus vivre, tu es en dépresse totale. Et donc, les industries pharmaceutiques, d'accord, s'enrichissent. Vas-y, les médocs.
Non, mais le tout, c'est de se souvenir de cet attachement.
C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, tous les jours, tu dois te souvenir. La première pensée, c'est de se rappeler Yaolam Haba.
C'est ça,
Chazor
des enfants.
Bidouk.
Non, mais attends, préviens-les que c'est un travail. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai travail. C'est-à-dire, tous les jours, tu dois te souvenir que tu dois t'attacher à Rabbeinu, que quand tu tombes en bas, il faut dire nanar. D'accord. C'est quoi, Yael? Purée, moi, je suis pas du tout. Je suis pas du tout dans ce truc-là, tu comprends?
Mais si tu leur dis tout ça, ils vont pas vouloir venir.
Mais il faut dire à un minimum.
Si, au contraire.
Dis-leur que tu gagnes beaucoup. Mais oui,
tu gagnes la maba. Attends, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Je suis venue ici pour réparer le monde. On va continuer. Donc, quand maintenant, toi, tu t'attaches au tzaddik, tu t'inclus dans le tzaddik, ben, automatiquement, tu deviens plombier, cablan. Dis-moi, tu gagnes quand même, non? Tu construis des maisons, tu construis des édifices, c'est pas rien.
Puisqu'on va réveiller l'amour, justement, c'est la Géoula.
Regarde ce qu'il dit, venez, continuons. Il te dit comme ça, d'accord? Donc, on n'est pas en mesure de faire tchouva. Il te continue en disant, mon objectif, en fait, Rabbeinu, il te donne un plan de construction, il te dit, voilà, je te dis qui je suis, voilà comment ça va se passer. Mon objectif est de placer sagesse et compréhension à l'intérieur de leur cœur, en leur offrant joie et gaieté, afin qu'ils soient gagnés par l'envie d'accomplir les injonctions de la Sainte Torah, en les mettant joyeusement en pratique. Vous savez comment Rabbeinu te dit, c'est quoi le plus important dans la tchouva? C'est la joie, c'est d'être besimcha. C'est pour ça que tout le temps il te dit la simcha, quoi qu'il arrive la simcha. Parce que quand tu fais tchouva, en général, si tu n'as pas Rabbeinu, tu vas être en dépresse. Pourquoi? Parce que d'abord, tu as l'impression que le ciel et la terre, ils ne reposent que sur tes épaules. Et en plus de ça, notre ami, le Yetzer Hara, d'accord, qui te connaît mieux que toi-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir te rappeler à chaque fois tes avérotes. Il va te raconter ton émet, tes vérités. Il ne va pas te raconter des mensonges. Ça aurait été trop beau, tu vois, c'est pas vrai. Non, tes petites vérités, celles qui te font mal, celles dont tu as honte, celles dont tu as tellement envie de pouvoir tout gommer, dire non, non, ça ne m'appartient pas, c'est pas moi, c'est tes pires pensées, tes pires actes, tes horreurs, ton jardin intime. D'accord? Ça, c'est le Yetzer Hara qui va venir te le rappeler quand? Dès que tu vas vouloir faire tchoua. Pourquoi? Parce que maintenant, tu commences à déranger. Tant que tu faisais partie du club, d'accord, du Yetzer Hara, et que tu te vautrais dans la luxure et les avérotes et l'inconscience et la folie et tout ce que tu veux, reste tranquille, mamie, on va pas te déranger, c'est bien. Tu sers le Yetzer Hara et tu... C'est bien, reste tranquille. Ah, mais dès que tu fais tchouva, ça va commencer... Là, tu commences à nous déranger. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va te mettre des coups de poing dans la tête, matin, midi et soir, et Akadosh Baruch Hu, il te dit, tiens bon. D'accord? Donc ici, il te dit comme ça, il te dit, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, moi, mon job, c'est de te rentrer, d'accord, la sagesse, la Torah, de te rentrer en réalité la vraie vérité. Pourquoi? Pour que quoi qu'il arrive, tu vas continuer à faire la Torah et les mitzvot avec la simcha. Pourquoi? Parce que si tu fais Torah ou mitzvot sans simcha, comme un robot, parce que voilà, c'est comme ça, parce qu'il faut le faire, parce que mon mari me saoule, parce que mes gosses, parce que j'en sais rien quoi, dans ces cas-là, j'en veux pas de ta Torah. C'est pas ça ce que je veux. Moi, je veux te voir simcha. Parce que tu dois ressembler à Hachem. Hachem, c'est la simcha. Alors, il te dit comme ça, il te dit, ça, c'est ce que je vais faire moi. D'accord? Mon objectif à moi, c'est quoi? C'est de t'emmener, en réalité, de te ramener tes enfants comme ils étaient, c'était un cœur pur, un cœur propre, ils étaient tranquilles, ils étaient heureux, ils étaient dans le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est quoi? Bien sûr que c'est un endroit, mais le Gan Eden, c'est surtout un état d'esprit. Tu peux être dans des poubelles, dans des histoires, dans des machins, mais si tu te rappelles de tout ça, tu es au Gan Eden, ça ne te touche même pas, tu t'en fous. Je continue. Je suis un tel tzaddik, tout ça c'est Rabbeinu, hein. Parce que tous les êtres dépendent de moi. Jen, écoute ça. J'ai servi de garant au saint béni soit-il. Alors que les mondes n'avaient pas encore été créés pour les âmes d'Israël. Ça veut dire avant tout, Rabbeinu, il a servi de garant. Hachem, il s'est dit un jour, bon, qu'est-ce que je fais? Je crée pas. Non, mais je sais, il y a des galères, ils vont me saouler. Je viens. Je te dis, bon, regarde, combien tu veux, je te mets sur la table.
Donc,
c'est du cash.
Il s'est passé avant de créer le monde, alors.
Si, il a créé, il a détruit.
Il y a eu Bet Reshit. Avant que le monde, notre monde à nous, existe, d'accord, il y a eu 974 générations. Il y a eu plein d'essais, de trucs, de machins. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que alors là, elles vont vraiment sortir avec mal de tête. Donc, viens, on reste là, tranquille. Donc, la première chose qu'il y a eu, Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer un monde, d'accord, il avait besoin d'un garant. Le garant, c'est Rabbeinu. Avant qu'il y ait tout, il est venu, il a dit, moi, je t'assure que tout ira bien et que malgré tous les exils, les histoires, les galères, les machins, tout, je te ramène tes enfants propres. À la fin de l'histoire. J'ai accepté de plein gré, à la fin des temps, de les rapprocher de l'Éternel qui a créé le ciel, la terre et toutes les milices en 6 jours. Et elles connaîtront un renouvellement complet dans l'avenir. Donc ça, c'est Rabbeinu maintenant qui te dit, moi j'ai accepté de faire ça.
Donc il dit même quand est-ce qu'il va se révéler finalement, à la fin des temps. C'est pour ça qu'il ne s'est pas révélé jusqu'à maintenant.
On y arrive.
On y est là.
On y arrive. Écoute ça maintenant. Alors là, donc tout ça maintenant, d'accord, ça c'est une discussion dans la grotte, il fait noir, imaginez-vous, il n'y avait pas ni le téléphone pour faire les trucs là, les lumières. Ni il est venu avec des bougies. Il est venu les mains dans les poches, Rabbeinu. Bon, il scintillait de lui-même, de toute façon. Maintenant, tout ça, c'est une discussion, d'accord, entre Hachem et Rabbeinu. Donc, à un moment donné, après tout ça, on est tous éclatés. Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il est là quand même, on l'oublie, mais il est là, et on est dans sa sépulture. Rabbi Shimon Bar Yochai se redressa et demanda à Rabbi Nachman. Miron, qui va chanter? Miron, d'accord? C'est pas pour rien qu'il s'appelle Miron. Miron, qui va chanter ce chant nouveau? Notre maître lui répliqua. Aniron, c'est moi qui le chanterai. Je ne sais pas, vous n'avez pas des frissons, moi je me sens mal. Hein. Je me sens.
Après, vous tous vouloir aller à Béron, hein,
Mais bah, allez-y. Mais allez-y. Allez-y chez Rabbi. Mais écoutez, moi j'ai été chez Rabbi Shimon, grâce à Dieu, déjà. Mais si vous n'avez pas encore été, allez-y. On ne peut pas passer l'Akba Omer sans aller chez Rabbi Shimon. Et je vais vous dire plus que ça. Prenez la voiture, ne réfléchissez pas. Je sais qu'il va y avoir des embouteillages, ça va être la mort, ça va être. C'est pas grave, allez-y. Même si en plein milieu, vous allez dire, j'en peux plus, c'est la galère. Retournez, c'est pas grave. Vous avez été. Aïkar, c'est le chemin. Vous avez commencé, vous avez voulu y aller. Ma parole, même si vous ne sortez pas de Tel Aviv, j'y vais, je prends ma voiture, je vais à Méron. Ne réfléchissez pas. C'est comme aller à Ouman. Je ne réfléchis pas, j'y vais.
Mais si on n'y va pas demain soir et qu'on y va aujourd'hui, dimanche.
Vas-y. Tu vois les chokhmot? Vas-y, va. Tu comprends? C'est chaque chose. Ne te pose pas de questions. Regarde. J'entends tout ça. Tu te poses et j'y vais, je me jette directement. C'est comme là, on te parle de ça, Rabbeinu, c'est le guérisseur. Tu vas pas aller à Ouman, mais t'en as rien à faire de tout ce qui est autour de toi. Tu prends ton sac à main, ton passeport, tu y vas. Tu te dis, mais attends, je suis malade, je suis très malade. Et je reste encore ici, mais je suis obligée d'aller les guérir. Je vais pas mourir à 120 ans sans être guérie. Encore, je vais revenir. C'est pas possible.
Moi, je peux revenir.
Écoute ça.
Je suis un deal en ce moment. Je bosse, mais je peux revenir.
Écoute ça, écoutez ça, les filles. Écoutez ça. On finit. La gloire du Saint béni soit-il. Donc tout ça, ça c'est Rabbeinu qui dit à Rabbi Shimon. La gloire du Saint béni soit-il se dévoila alors et toutes les âmes des tzadikim escortèrent l'Éternel. C'est-à-dire là, c'était, imagine-toi, à ce moment-là, toutes les âmes, Hachem il s'est retiré. D'accord, si on peut dire comme ça, toutes les âmes, elles l'ont escorté. ceux qui s'étaient déjà incarnés dans ce monde et ceux qui étaient appelés à venir ici-bas. Tu comprends de quoi on parle ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, d'accord, il y avait toutes les âmes des tzadikim. D'accord ? Regarde. Toutes les âmes des tzadikim escortées à Hachem. Donc toutes les âmes, elles ont été maintenant, d'accord, elles étaient incluses. Je ne sais pas si tu vois le truc. Et donc elles sont toutes. Tous, donc en réalité, il y a un bug quelque part. Quand toutes les âmes et tous les tzadikim, ils ne reconnaissent pas Rabbeinu. Et qui te disent pas, mais c'est pas moi l'adresse. C'est pas chez moi que tu dois faire le pidyon. C'est pas chez moi que tu dois donner là les 10 000 euros là, pour recevoir ma petite bracha pourrie. Mais va chez Rabbeinu. Tu comprends, ça veut dire que ces tzadikim là, qui eux étaient là, et qui savaient, et qui savent la vraie vérité. Quand maintenant eux, ils cachent la face du tzadik, c'est très grave. Il n'y a pas plus grave que de cacher la vérité à un pauvre fidèle. Tous se rassemblèrent pour entendre la mélodie sacrée qui était sur le point de jaillir à partir de l'instrument de musique posé à proximité de notre saint maître. Donc là, ils ont entendu une mélodie de dingue. Tout à coup, une voix majestueuse éclata en se répandant dans tous les firmaments. Tous les mondes dans leur intégralité perçurent sa puissance. Le tzadik qui possède ses aptitudes, c'est Nachman, fils de Simcha et de Fege. Mon saint fils bien-aimé, il est mon... Là, c'est Hachem hein, qui parle. Mon saint fils bien-aimé, il est mon serviteur, mon œil rempli de compassion. Nachon, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est que Rachmanout, il te dit, c'est mon œil à moi qui est rempli de compassion, c'est-à-dire Rabbeinu, quoi que tu vas aller lui raconter, quelle que soit ta poubelle, quelle que soit ta détresse, il n'y aura que de la compassion. N'aie pas peur, n'aie pas honte. C'est le héros parmi les héros. C'est sur lui que repose l'esprit de sainteté, au souffle d'éternité. C'est à son propos qu'il a été dit, « Israël est mon fils premier-né. Israël, c'est par toi que je me glorifie. Les cieux, la terre et toutes les milices continuent à exister en sa faveur. Tout continue à exister en sa faveur. Le roi souhaite lui faire les honneurs et Rabbeinu a ainsi obtenu la permission de chanter et de jouer la sainte mélodie suprême qui comble d'allégresse le Créateur et les hommes. Je vous passe parce que je sais que vous allez me dire, mais c'est bête. Bon, vite fait. Notre saint maître saisit alors la harpe aux 72 cordes et se mit à entonner le chant et la mélodie, qui englobe la louange portant sur les 10 sortes de mélodies dont se servit le roi David. Bon, là, on nous parle bien évidemment du Tikkun HaKlali. Que la paix soit sur lui pour composer... Hein? Et de Nanar, bien sûr. Quand vous dites Nanar, Nachman, Nachman, Mouman, vous réparez le monde. Nagit que vous oubliez après Nanar, dites juste Nanar. Rabbi Israël, il a dit, bon, c'est pas la peine, on va faire un kitsour, un diminutif, dites Nanar et c'est bon. T'as un problème, t'as une histoire, tu dis Nanar, tu répares. Tu répares tout. Donc c'est vraiment, on devrait dire ça tout le temps. Ce chant est celui qui sera entendu dans le futur. C'est... Cette sainte mélodie contenait dès les premières notes tous les tikkunim accomplis de leur vivant par tous les tzadikim de toutes les générations. Ça veut dire que toi, en réalité, quand tu dis nanar, tu répares tout. Tu t'en rends même pas compte. Nous, on est là, ouais, nanar, mais c'est énorme. Et après leur disparition physique, soit de mort naturelle ou en se sacrifiant pour la sanctification du nom divin, depuis la génération d'Adam Arishon jusqu'à sa génération, la génération du tzadik. Toutes ces rectifications constituent le remède ultime de la princesse. Quand notre saint maître décrivit le détail des tikkunim, donc des réparations spirituelles, qu'il accomplit, une lumière supérieure illumina son visage et tous les tzadikim se joignirent à lui dans une ronde. Joie et allégresse gagnèrent tous les mondes, tandis que tous se confondaient en remerciements à l'égard d'Hachem en s'écriant « Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, soit béni. Il ne t'a pas privé d'un libérateur. Heureux les parents d'un tel fils. » C'est-à-dire qu'Hachem, il ne nous a pas abandonnés. C'est vrai qu'on vit dans un monde très trouble, on est très, très perturbé. Mais Hachem, il nous a envoyé le libérateur. Hachem, il ne nous a pas laissés comme ça à l'abandon. On a le tzadik qui s'occupe de nous. Lorsque les grands tzadikim furent envahis par cette mélodie contenant le tikkun, donc la réparation, si précieux, qu'il dévoila récité lors de Rosh Hashanah, ils se sentirent défaillir. D'où l'importance d'envoyer nos maris chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah, parce que tout se passe là-bas. Toute la délivrance.
Alors, j'ai une question, pourquoi pas les femmes ?
À Rosh Hashanah, parce que le mari, il inclut la femme. Attends, parce que là, c'est maintenant le testament. C'est alors que notre saint maître, Nachal Novea Mekor Chorma, Rabbi Nachman, qui est donc la source, se joignit à Rabbi Shimon Bar Yochai dans l'amour et l'affection, comme il est dit dans la Hidra Kadisha, la réalisation du Tikkun dépend de l'amitié qui nous unit tous et nous constituons le principe de tout. Vous vous rappelez Rabbi Nathan ? Qu'est-ce qu'il a dit dans... Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a dit dans son testament ? Soyez fort en amitié, fort en argent et fort en amitié. Parce qu'en réalité, l'amitié qui nous lie, quand il y a une amitié forte, c'est en réalité la réparation du monde. Tout dépend de ça. Quand tu as deux bracelets et que Bémet, c'est ça tout le travail, d'accord ? C'est qu'on doit s'unir entre nous, on doit être amis entre nous, on doit s'aimer entre nous. Alors on répare le monde. Rabbeinu, il a dit comme ça. La réalisation du tikkun dépend de l'amitié qui nous unit tous. Tous et nous tous. Et nous constituons le principe de tout. Ils se font dire dans l'infini divin qui est en relation avec l'amour contenu dans l'esprit, autrement dit, l'amour que Dieu éprouvait envers Israël avant la création du monde. Ça veut dire que c'est un amour pur, un amour sincère. Et je termine juste... Attends, bon. Après, je continue, c'est pas grave, tant pis. Bref, en tout cas, voilà. Ça, c'est, d'accord, le message qu'on a à vous dire, que j'avais à vous dire par rapport à Rabbi Shimon. On croit que Méron, c'est rien. L'Agba Omer, c'est rien. Et que Stam, tout ce qu'il dit, d'accord, tout ce qu'on... Quand on va là-bas, on chante. Quand tu vas chez Rabbi Shimon, quand tu vas à Méron, et que tu vas commencer à chanter, tu t'inclus dans le tzaddik, tu rapproches la Géoula. Maintenant, il faut savoir une chose, d'accord ? C'est que Rabbeinu, on sait, il y a un moment où il va y avoir la Géoula. On veut tous la Géoula. Mais comme il a dit Rabbi Israël, vous vous rappelez dans la lettre qu'on avait lue, Mi Bo Elai, il a dit, on ne doit pas chanter, on veut Mashiach. Ça y est, Mashiach, il est devenu. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut la délivrance. Donc, il te dit, chante Nanach et tu amèneras la délivrance. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit tous méritants, si Dieu veut, de recevoir la lumière de Rabbi Nathan, Rabbi Nachman, Rabbi Shimon. Amen. N'hésitez pas à aller sur Mama Chameron. Je vous répète encore une fois, je sais, c'est dur d'arriver maintenant. Plus on se rapproche de l'Agba Omer, plus ça va être très dur d'aller là-bas. Mais ce n'est pas grave. Celle qui n'a pas eu le mérite d'arriver, juste tu as pris ta voiture, tu as dit je fais quelques kilomètres en direction du tzaddik, ça me rapproche de lui, c'est déjà bien. Celle qui n'a pas réussi, allume une bougie. Demain soir, vous allumez toutes un air pour Rabbi Shimon. Et vous chantez. Vous ne pouvez pas faire un feu parce que voilà, vous êtes dans la ville. Prenez même trois, quelques allumettes, vous faites un petit feu et vous chantez. Vous prenez vos enfants, vous chantez Nanar. Vous demandez à Rabbi Nachman qu'on ait la délivrance prochaine. Et Bezrat Hashem, rappelez-vous tout ce qui a été dit aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule adresse. Il y a un seul médecin, c'est Rabbeinu. Ne vous trompez pas de médecin. N'allez pas courir tous les babas et tous les tzadikim et tous ceux qui vont vous raconter du baratin. Il n'y a que Rabbeinu qui va pouvoir sanctifier nos cœurs, nous donner la possibilité de faire tshuva be'emet, d'accord ? Et Bezrat Hashem de délivrer le monde. Amen, Kenny Ratson. Tout ça, c'était du sidur de Rabbeinu. Hein.